Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de ma préférence. Je ne sais jamais comment appeler les enregistrements. Est-ce qu'on appelle ça des épisodes ou des éditions ou des émissions?
Des petits podcasts, on pourrait dire, c'est le mot
voilà,
à la mode.
Exactement, donc je suis avec Chloé comme d'habitude.
Bonjour tout le monde, bonjour Léo.
Et
oui,
et bonjour,
il
peut t'en c'est bon,
Léo a un micro maintenant,
et
c'est
oui,
trop chouette.
C'est nouveau, c'est parfait.
Et on a une invitée à côté de nous qui s'appelle Fanny Wolf.
Bonjour à tous.
Salut Fanny.
Salut, on peut dire salut, ouais.
D'ailleurs, on peut présenter aussi Maëva, qui est
oui,
à côté de nous, qui
exactement.
Est stagiaire. Et alors, on va lui laisser un micro tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas encore assez. Mais quand je vais filer, je lui refile mon micro et vous pourrez entendre sa voix. Je commence alors.
Eh ben, à toi l'honneur.
Parce que Vanessa n'est pas avec nous aujourd'hui, en direct en tout cas. Moi, je suis venue avec Fanny, qui est une copine en fait, on peut dire.
C'est vrai.
Collègue, copine.
Disons-le, Chloé, nous avons des liens intimes.
Ah, c'est-à-dire
non, on n'a pas encore joué ensemble. T'as eu
c'est
peur de la fin de cette phrase
aussi. J'ai vu son regard. Ce serait terminé pareil, cela dit.
Exactement, on n'a pas encore joué ensemble. Peut-être de l'impro un petit peu, mais est-ce que tu fais de l'impro aussi?
Oui, je fais de l'impro aussi. Non, je crois que je n'ai jamais eu la chance de partager la scène avec toi, mais je pense avoir partagé des exercices,
peut-être,
des échauffements.
Ouais, des petits échauffements, des choses comme ça en improvisation. Alors Fanny, toi tu es comédienne, humoriste, et je sais que tu as aussi fait de la radio, donc je le place aussi tant qu'à faire.
Oui, c'est vrai, c'est le lieu, je dirais. Oui, alors la radio, j'en ai fait en effet à Campus FM pendant 2 ans. J'avais une émission qui s'appelait Rebond. Que je n'ai plus. Mais par contre, je reste comédienne et humoriste.
Et tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, nous dire d'où tu viens.
Oui, alors ça va être compliqué peut-être pour certains auditeurs, mais à la base, malheureusement, je suis parisienne.
Ah ouais.
Mais à coup de pas,
on ne va plus pouvoir t'accepter dans ce studio.
Coup dur, coup dur.
Voilà, mais ça fait 6 ans que je vis à Toulouse et je ne compte pas quitter cette ville. Que j'adore. Et même, je dirais, cette région que j'adore aussi. Et donc, je suis arrivée à Toulouse il y a 6 ans. Et c'est à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai monté, où j'ai commencé à finaliser, je dirais, et monter mon one-woman show, qui s'appelle donc D, entre parenthèses, Tendu. Et par ailleurs, je suis donc comédienne... spécialisée hier en comédie, en café-théâtre. Et je joue régulièrement, notamment au 3T et à la Comédie de la Roseraie.
Au 3T, donc on se croise quelques fois quand j'y vais. Tu joues dans combien de pièces au 3T en ce moment?
Alors, en ce moment, je joue dans 3 pièces au 3T, qui sont « J'aime beaucoup ce que vous faites »,« Toc Toc » et « Les Bonobos ».
C'est pas mal. Les Bonobos, elle est longue en plus, cette pièce-là.
Oui, alors toutes sont longues. Je suis spécialisée dans les pièces longues au 3T. mais on ne voit pas le temps passer.
Non, bien sûr. Et c'est long. Quand on dit long, c'est long pour de la comédie, mais c'est pas... C'est 2 heures.
Oui, c'est 2 heures. Ça. C'est 2 heures maximum.
Et c'est des pièces super. Pour le coup, Toc Toc, c'est Laurent Baffy.
Ouais.
Ou Les Bonobos aussi.
Oui.
Et l'autre...
C'est Karl Grepp. Voilà, et à la Comédie de la Roseraie, je suis aussi dans 3 pièces, bientôt 4. Je joue dans L'Art du mensonge, qui est une comédie romantique, Le gang des cieux, des chieuses.
Que j'ai vu.
Ah, que tu as, mais oui, que tu as vu, que
tu
as vu.
Je suis allée le voir.
Qui est une comédie pas romantique, mais qui est l'histoire de deux, je dirais, amis opposés qui vont s'entraider pour l'une trouver un homme et l'autre le garder, je dirais. Et la troisième qui s'appelle Adopte un Jules, qui est un petit peu dans le même genre. Là, c'est 3 copines qui, pareil, donnent des conseils pour trouver un homme.
Et celle-là aussi, je l'ai vu. Ça tombe beaucoup autour des histoires d'amour.
Oui, le café-théâtre, en général, est spécialisé un petit peu là-dedans. Hein, je veux dire, 80% des pièces sont là-dessus. Hein.
Il y a pas mal de pièces sur les relations hommes-femmes, amour, tout ça. Mm. Mais là, pour le coup, Bonobo, c'est ça aussi. C'est des hommes qui cherchent des femmes, mais des hommes qui ont un handicap particulier.
Ouais.
Chacun. Et donc, ils trouvent des moyens de trouver des femmes. Mais Toc Toc, c'est pas une comédie d'amour, pour le
non.
coup.
Non.
C'est quoi Toc Toc?
J'aime beaucoup ce que vous faites. Toc Toc, c'est une comédie de Laurent Baffy qui se passe dans une salle d'attente d'un médecin. Et chacun des personnages a un toc. Et l'idée, c'est qu'ils ils attendent un spécialiste qui enlèverait les tocs. Et ils vont se retrouver tous ensemble. Et vont-ils arriver à
gommer leur toc?
Oui, voilà. C'est un peu le fil rouge de l'histoire. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Pareil, il n'a pas vraiment de lien avec les relations amoureuses, mais plutôt avec les relations amicales. Puisque ce sont deux couples opposés qui vont se retrouver. Et l'histoire est que le premier couple, je dirais un petit peu de bobo, s'est installé à la campagne et invite le second, qui est plutôt nouveau riche, à venir passer un week-end chez eux. Sauf que le couple de nouveau riche, en arrivant chez le couple de bobo, appelle par mégarde ce couple-là et va évidemment dire des méchancetés sur ce couple. Et donc, ça va être une histoire plutôt de vengeance.
Il y a un film d'ailleurs qui a été réalisé sur la même histoire. Moi, j'ai vu le film aussi et j'ai vu votre pièce et c'est vraiment, vraiment drôle parce que c'est le truc qui peut arriver à tout le monde quand on dit des... Parce que si ça vous est déjà arrivé de dire deux, trois trucs, même moi, juste des fois, je donne un peu mon avis sur quelqu'un ou quelque chose. Je me dis, ah, s'il est derrière et qu'il comprend pas vraiment ce que je veux dire, j'ai toujours peur de vexer.
Je comprends. Bah, il y a ça, puis il y a le fameux mode avion. Dès que tu dis du mal de quelqu'un, tu te mets en mode avion, quoi.
C'est-à-dire.
Bah, par peur, tu sais que tu l'appelles par mégarde. Tu vois, c'est ça.
C'est de la paranoïa.
Ah, d'accord, tu te mets littéralement.
Oui, je mets mon portable. Je ne prends pas forcément l'avion.
Ouais. D'accord. Mais on en vient du coup à ce titre de spectacle dont on va vraiment parler. Là, c'est le spectacle qui nous intéresse bien parce qu'il y a une date qui approche, détendue. La preuve, donc, t'es complètement détendu pour te mettre en mode avion dès que tu parles de quelqu'un. Ça parle un peu de toi de dire ça, tu vois, le côté... Est-ce que tu as appelé ce spectacle parce que, par rapport au fait que tu n'es pas quelqu'un de très calme?
Tout à fait, Chloé, puisque je rappelle que ce titre, dans ce titre détendu, le D est entre parenthèses, donc c'est plutôt tendu que je suis. Je suis en effet quelqu'un d'assez angoissé et stressé. Et dans ce spectacle, je raconte à la fois pourquoi je le suis, et je dirais les différentes manières que vont avoir mes proches pour essayer de me détendre.
J'aime beaucoup le titre. Déjà, j'aime beaucoup le titre. Ça me rappelle... Ouais, ça me parle.
Tu es tendue aussi?
Oh, on peut dire ça comme ça, oui.
Ah oui, okay. tu ne parais pas, tu ne parais pas.
Je sais, on me le dit souvent. Je pense que tu comprends, toi et moi, on a compris.
Alors moi, on ne me le dit pas souvent. Bah, on voit assez vite que je suis stress, mais que je suis speed en tout cas.
D'ailleurs, tu as beaucoup d'énergie. Moi, j'ai vu donc plusieurs pièces dans lesquelles tu étais, et tu as une énergie incroyable. Moi, là, dans le gang des chieux, c'est ce qui m'a marqué. Elle est pas essoufflée après, quoi. C'est ça qui est fou. Moi, je fais deux trois cabrioles, je suis en PLS. Toi, tu danses comme une malade, et t'es pas du tout.
En vrai, j'ai pas mal de points de côté dans cette pièce.
Mais ça se voit pas non plus.
J'ai un problème de souffle, mais j'ai l'énergie, ouais. Et je suppose, et en tout cas, c'est ce qui leur sort en général des spectateurs. Dans ce spectacle détendu, oui, ça va assez vite. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, c'est assez speed, je dirais, à mon image. Et je vais aborder donc ces questions en racontant des mésaventures qui me sont réellement arrivées. Et en général, je les raconte en incarnant des personnages que j'ai réellement rencontrés.
Donc, c'est de l'ordre du one woman show, en fait, vraiment, parce que la différence avec le stand-up. Pour moi, c'est que le stand-up, on va parler souvent un peu droit, face à un micro, on raconte des anecdotes, que le one woman show, là, on joue les personnages.
Exactement. Le stand-up, on parle en tant que soi-même. Et en général, d'ailleurs, on fait des vannes. Voilà. Et dans le one man show ou woman show, c'est beaucoup plus théâtral et ça va être des sketchs avec des personnages en général. Donc, il y avait des histoires que je vais raconter.
Moi, j'avais vu une première version, vraiment, il y a longtemps, il y a plusieurs années. Parce que d'ailleurs, ma question, c'est, tu as commencé par le seul en scène ou par les pièces?
Les deux. Enfin, j'ai commencé par par prendre des cours de théâtre. Puis j'ai fait l'école du one-man show à Paris. Ah. Et à ce moment-là, on m'a débauché pour une comédie. Et par ailleurs, j'écrivais et je jouais des sketchs sur des plateaux d'humour. Et donc, j'ai quand même commencé par le théâtre, mais assez vite, j'ai fait ce spectacle.
Oui, parce que se mettre seul sur scène, moi, je ne l'ai encore jamais fait et ça me terrorise. Alors, je trouve ça très courageux.
Ouais, les seuls en scène, c'est ouais, une performance. Hein.
Complètement. Alors, c'est vrai que le faire tout en même temps, au moins, on se pose moins la question que si on fait du théâtre pendant longtemps, de se dire, toute seule sur scène, peut-être qu'il y a le stress un peu plus, je ne sais pas. Je dis ça par rapport à moi.
Déjà, peut-être commencer par faire des monologues. Ça peut aider à démarrer. Parce que les monologues aussi, c'est un truc. Hein.
Mais tu as toujours eu ce truc de faire des sketchs, des blagues. Est-ce que tu as eu... Parce que moi, je sais que tu es très drôle dans la vie aussi.
Oh,
non, c'est vrai. Et puis, tu as une voix, tu as une présence et tu racontes les choses d'une manière marrante, quoi. Et est-ce que tu as toujours eu ça ou est-ce que tu as dû le travailler?
Alors, j'ai toujours voulu et aimé, quand je y arrivais, être drôle, enfin, du coup, à faire rire. Et donc, c'était mon but dans la vie, c'était de faire du théâtre et de faire de la comédie. Et en effet, très vite, j'ai voulu faire du one. Alors, par contre, j'adore faire les deux et je ne pourrais pas faire que l'un ou que l'autre. Mais j'ai toujours aimé raconter des histoires, ouais.
T'as des inspirations, quelqu'un qui t'a donné envie particulièrement ou...
Je pense que ça a été, quand j'étais plus jeune, c'était Muriel Robin, je pense, qui m'inspirait. Et assez vite, comme beaucoup, Florence Foresti. Bon, après, maintenant, il y en a plein d'autres.
Oui, maintenant, il y en a. D'ailleurs, Muriel Robin, elle est excellente en cinéma maintenant. Moi, j'ai vu plusieurs téléfilms ou films avec elle dedans.
Ah, mais bien sûr,
Jacqueline
Robin,
Sauvage, et j'en ai vu un autre récemment, et elle est incroyable.
Muriel Robin, ouais.
On découvre une autre facette un peu de cette comédienne. Et donc, du coup, tu as une date qui arrive là trop bien. C'est à La Roseraie, c'est ça?
Alors voilà, c'est à la Comédie de La Roseraie. C'est le 3 avril, le mercredi 3 avril à 20h, où je jouerai donc mon spectacle Des Tendus.
Vous pourrez en profiter comme ça pour prendre le programme de La Roseraie et aller voir d'autres pièces de Fanny, puisqu'il y en a 3 autres ou 4 autres dans le même lieu.
Tout à fait. Prenez donc ce programme. Il est d'ailleurs disponible sur les internets.
Il ne faut pas le dire, ça. Parce qu'il faut qu'il vienne le 3. Et
bien sûr, oui, évidemment.
Le programme papier.
Mais je ne suis pas sûre qu'il existe un programme papier. Mais par contre, dans le doute, venez donc le 3 avril au moins voir s'il y a ce programme. Et
on vous
profiter
fournira l'adresse mail à ce moment-là, si jamais...
Voilà, si l'adresse même du site. Mais en tout cas, profitez-en pour peut-être prendre une place, quitte à y être, pour mon spectacle, qui donc sera le 3 avril à 20h.
Moi, j'avais le souvenir d'un personnage, d'une femme... Dans ton One Woman Show, d'une femme un peu superficielle ou un peu énervante.
Oui.
Une jeune, je crois. Mais ça date, hein, je l'ai vue il y a longtemps.
Alors,
qui revenait souvent, je crois. Mais ça a bougé hein, depuis.
En tout cas, il y a des personnages féminins énervants.
Il y en a plusieurs.
En gros, tous les personnages que je rencontre sont plutôt... me tendent. mais c'est toujours moi qui suis un petit peu le Pierre Richard des histoires. En gros, c'est plutôt moi qui me fiche de ma propre figure plutôt que des personnages, même s'ils sont tous complètement starbés.
Dans la première version que j'avais vue, tu parlais aussi un peu de ton côté hypochondriaque. Est-ce que ça y est toujours ou ça a changé ça?
Alors, je l'évoque de façon différente, mais en tout cas, je le suis toujours et on le constate toujours dans le spectacle. et là, disons que je vais parler à la fois donc de pourquoi je suis stressée, donc de mes origines, de en effet du fait que quand même il m'arrive toujours des trucs bizarres, des allergies, des gonflements, voilà. Et à chaque fois qu'on essaye de me détendre par exemple le sport ou les vacances ou le spa, des massages et tout ça, c'est compliqué pour moi. Est-ce que je vais réussir à me détendre? Ça, je conseille vraiment aux spectateurs de venir voir le spectacle pour avoir la réponse.
Très bien, ça c'est un bon teasing. Donc le mercredi 3 avril, à quelle heure?
À 20h.
À 20h, au Café Théâtre de La Roseraie, qui est à 4 minutes à pied, et c'est véridique, de la station de métro Roseraie.
Oui, exactement.
Alors, je l'ai testé pour vérifier.
Ça se joue.
Vrai.
On est quasiment dans le métro.
Voilà. Et il y a, pour ceux qui viennent en voiture, il y a aussi un petit parking.
Oui, tout à fait. Vous pouvez même venir à vélo, enfin, tout est possible.
En trottinette.
À dos de cheval ou de dragon.
Oui, voilà. Ceux-là, on les aime bien. Ils sont rares, mais je les préfère.
On peut te trouver sur les réseaux pour justement, si quelqu'un voilà, entend l'émission et puis après, il voudrait te trouver sur les réseaux.
Eh bien oui, il peut, oui, ils peuvent. J'ai un site internet qui s'appelle fannywolf.com. J'ai aussi donc un Facebook qui s'appelle Fanny Wolf. Et j'ai un Instagram qui s'appelle, ah, attention, Wolf Fanny.
Ah, et Wolf, comment ça s'écrit? On va peut-être le...
Oui, en effet, ça s'écrit W-O-L-2-F.
Très bien, c'est une origine particulière ou...
Oui, c'est allemand.
Allemand, Wolf.
C'est vrai que ça, c'est... Ouais. Ça sonne un peu allemand.
Oui, moi, je demande. Trop bien, bah, comme ça, on peut te retrouver. N'hésitez pas à aller voir toutes ces pièces, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, je ne sais pas, en tout, il y a au moins 7 ou 8 spectacles à voir avec toi dedans. Donc, ouais, n'hésitez pas à découvrir
du
Fanny.
Choix.
Exactement. Et on peut écouter tes podcasts de radio que tu faisais avant. On peut les écouter quelque part?
Alors, j'espère évidemment que Campus FM a gardé ce joyau sur son site. Mais à l'époque, on pouvait écouter les émissions de Rebond. L'émission qui prouve qu'on a plusieurs vies dans une vie.
Oui, c'était les gens qui rebondissent. Voilà, c'est ça. J'ai une amie qui me l'a raconté un petit peu. Des gens qui rebondissent, qui changent de voix.
Oui, exactement. Qui ont décidé de changer de
vie. Il me semble avoir compris que c'est une mentalité très canadienne, en fait, où ils considèrent que justement, ils ont plusieurs métiers ou plusieurs vies dans leur vie, en fait.
Donc, ah ouais?
Voilà, ouais, ça, on m'avait dit ça une fois.
Écoute, personne ne me l'avait dit, mais en tout cas, il y en a plein en France.
Oui, il y en a plein qui considèrent
beaucoup plus,
effectivement.
Bah, dans notre compagnie, nous, on a deux anciens ingénieurs.
Oui, mais moi-même avant.
Brendan et Clément.
J'étais responsable communication pendant un temps.
Ah, c'est vrai. D'accord, ben voilà. super, Fanny, merci beaucoup. On va faire la pause musicale, je crois.
Oui.
Et c'est toi qui as choisi la musique. On va prendre celle que tu m'as parlé, qui est dans ton spectacle, il me semble.
Oui, tout à fait. C'est Black Betty de Caravan Palace.
Du coup, c'est une reprise.
C'est une reprise. Et c'est un groupe que j'adore. Et c'est une musique très énergique et qui, on ressent un petit peu l'état dans lequel j'arrive sur scène, puisque c'est la musique d'introduction de mon spectacle. Okay. Merci en tout cas de m'avoir invité.
Avec grand plaisir.
Merci Fanny.
bambling way down in Alabama, bambling where she that thing, bambling boy she makes me sing, bambling oh Black Betty, bambling oh Black Betty, bambling.
Et du coup, on va te dire au revoir, Chloé.
Oui, en effet, aussi. C'est énergique, cette chanson.
Ouais.
Ben oui, en fait, moi, je joue au bijou, là, donc je vais y aller. On joue le cœur qui compte avec ma compagnie, toujours les acides, le grand e-théâtre. Donc, je vais t'abandonner, Tiffaine, mais tu n'es pas seule, tu es avec
non,
Léo.
Non, il y a Léo et Maëva.
Et Maëva qui va prendre ma place. Tiens, Maëva, oui. Je te laisse le micro tout de suite. Et je vous dis au revoir, merci de votre écoute.
Au revoir, bientôt, Chloé. À bientôt. Au revoir Fanny.
Au revoir Fanny.
Maëva, bonjour. Est-ce qu'on t'a donné l'occasion de te présenter encore à la radio ?
Oui, on me l'a déjà donné, mais je peux me représenter. Voilà, je m'appelle Maëva Feltz, je suis étudiante en première année en école de journalisme et je suis en stage jusqu'au mois de mai. Voilà.
Et qu'est-ce que tu aimes faire comme qu'est-ce que tu aimes comme sujet ?
Oh, j'aime à peu près tout, hein. C'est pour ça que je veux faire ce métier de journaliste.
D'accord, ok, bah, bienvenue en tout cas. Et bah, bientôt on va appeler Pascal. Moi je suis seule, je n'ai pas pu faire de chronique hélas, donc je vous propose une petite lecture d'un extrait d'un bouquin qui s'appelle Avec ou sans les dents, qui est de Georges Bartoli. Et en fait, ce monsieur il a répertorié tout plein d'anecdotes historiques avec des timbres, en gros plus ou moins, donc autour de, bah, des lettres, des timbres, tous ces trucs-là. Et donc, il y en a un que j'avais lu il n'y a pas longtemps, c'est « Les papillons pas comme les autres des pharmaciens de Metz » ou de Metz, je ne sais pas trop comment on le dit. Et ça se passe, alors, pour le contexte, ça se passe en 1870, pendant, en gros, la guerre où Napoléon III a voulu... en gros, si j'ai bien compris, c'est pendant cette période Alsace-Lorraine. Moi, je ne suis pas très bonne en maths, du coup, je ne sais pas trop situer la période. Si jamais ce monsieur, il a tendance à écrire d'une façon... très lyrique, donc s'il y en a qui... N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des phrases que vous ne comprenez pas, même moi j'ai besoin d'un peu de temps. Alors, comme un lourd manteau de tristesse, le découragement s'est abattu sur Metz encerclé. Depuis 6 semaines, tout a contribué à saper le moral de nos troupes. Les hésitations de Napoléon III, qui, après avoir pris le commandement de l'armée du Rhin, l'a cédé au maréchal Bazaine à la popularité vacillante, les défaites de Wissembourg et de Spicheren, qui livrent l'accès de la Lorraine aux Prussiens, et surtout la terrible bataille de Gravelotte, si meurtrière que son nom passera dans le langage populaire et servira d'étalon pour évoquer les situations où contretemps et empêchements pleuvent de toutes parts, que les Français faillirent remporter et qu'ils perdirent faute de munitions. Donc en gros, c'est un peu la défaite. Une victoire à Gravelotte aurait changé le cours de la guerre de 1870. Mais on ne refait pas l'histoire, et pour l'heure, on en est à s'organiser, plutôt mal que bien, dans Metz, où ont reflué réfugiés de toute la région, blessés rescapés des sanglants affrontements, et surtout 175 000 soldats abasourdis par cette cascade de défaites, alors que nombre d'entre eux n'ont même pas été engagés dans les combats. Mauvaise journée. Ajoutez à cela la pénurie de vivres qui commence à se faire sentir dans la ville, que rien ne préparait à ce blocus et encore moins à cet afflux de bouches à nourrir, et vous comprendrez pourquoi le moral est à zéro. L'inaction et l'absence de nouvelles n'arrangent rien. Que se passe-t-il dans les autres régions de France ? Est-on au courant de la situation à Metz ? Les parents des soldats assiégés savent-ils que les leurs sont sains et saufs ? Quelles stratégies doivent adopter Bazaine et son état-major ? Doivent-ils attendre des secours de l'extérieur ou bien tenter de briser par eux-mêmes le cercle prussien qui, en serrant les forts et la ville, tente de mettre Metz à genoux ? Autant de questions sans réponse, autant d'occasions de laisser les faux bruits pénétrer les esprits, semer le désarroi et rendre plus obsédant le sentiment d'impuissance de ces hommes piégés. Certes, tandis que les Prussiens mettaient en place leur dispositif, quelques émissaires, des volontaires, ont pu franchir les lignes. Certains ont payé d'ailleurs cette audace de leur vie. En cette fin août 1870, la souricière est refermée et le courrier, dont on a fait une idée fixe, ne passe plus. Vitry, ils sont bloqués du monde extérieur. C'est à cela que réfléchissent quelques majors du service de pharmacie des armées. Après avoir brassé 1000 idées plus folles les unes que les autres, leur conclusion est formelle. Seule la voie des airs permettra de franchir les lignes prussiennes pour faire parvenir à la France supposée libre le courrier qui pourrait rassurer les familles et inciter les autorités à se soucier du sort de Metz l'assiégé. L'avion n'a pas encore été inventé et si l'on connaît Depuis plus de 100 ans, les montgolfières, personne n'a dans Metz le matériel et les compétences pour fabriquer ne serait-ce qu'un seul de ces engins qui, quelques mois plus tard dans Paris assiégé, seront le seul moyen de communication avec la province. Mais revenons à nos pharmaciens. C'est le 1er septembre que l'idée leur est venue de fabriquer de petits ballons. Si Dieu le voulait bien, ces frêles plus légers que l'air survoleraient les lignes prussiennes et s'en iraient atterrir, chargés de courrier, quelque part dans la campagne. Et là, ce serait bien le diable si un paysan, en les découvrant, ne s'en aille porter les lettres à la poste voisine. Laquelle, vraisemblablement, fonctionne encore dans cette France dont, somme toute, seule une petite portion est occupée. Et nos scientifiques de se poser un problème qui rappelle étrangement ceux qui empoisonnèrent notre enfance scolaire. C'est un souvenir. Sachant qu'un mètre cube d'hydrogène pèse 90 grammes et que le même volume d'air pèse 1,3 kg, entre parenthèses, et donc que nous disposons d'un crédit de 1210 kg pour le poids de l'enveloppe du ballonnet, le courrier à transporter est bien entendu pour assurer la force ascensionnelle qui emportera le tout vers le ciel. Combien de lettres un tel engin va pouvoir emporter ? Ça, je pense qu'on devrait l'ajouter au manuel de maths.
C'est dans le bac, le prochain bac. C'est un Ils devront peu résoudre cette énigme.
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons en maths. Le problème ainsi posé, il ne restait plus qu'à lui trouver une solution pratique, c'est-à-dire un moyen de se procurer de quoi fabriquer une enveloppe légère, résistante. Et ce ne fut pas simple. De Baudruche dans Metz, point. On se retourna donc vers le taffetas qui, lui, existait sur place. Dès les premiers essais, il fallut se rendre à l'évidence. Imperméabilisé par un vernis au caoutchouc, le tissu s'avéra exagérément lourd. Essayons donc le papier calque dont on venait de découvrir un stock à l'école d'application de génie et de l'artillerie. En moins de 3 heures, une sorte de sac de 1,50 m de haut sur 1 m de large est fabriqué, gonflé d'hydrogène, lesté d'un petit sac de lettres, et le voici qui s'élève et va se nicher sous le plafond du laboratoire. On crie « Victoire !» Yes ! Hélas, trois fois hélas, une demi-heure plus tard, l'aérostat gît lamentablement sur le sol, ses parois n'ayant pu retenir captif le gaz. Et malo. Fallait-il abandonner ? Non, car une dernière chance méritait d'être tentée. Une couche de collodion ricinée pourrait peut-être rendre le papier calque suffisamment imperméable au gaz pour assurer à l'aérostat la durée de vol nécessaire pour franchir les lignes ennemies. Le collodion, c'est une substance chimique. J'ai oublié. Après plusieurs essais durant lesquels on fit varier la proportion d'éther et d'huile de ricin ajoutée au collodion, un ballon consentit enfin à rester gonflé pendant 5 heures. Encore un rapide calcul. Reparti. Avec un vent soufflant à 5 mètres par seconde, cela représentait un rayon d'action théorique de 90 km pour chaque ballon transportant une quarantaine de lettres, donc une solution jouable. Tâtonnement, expérimentation et mise au point du prototype n'avaient duré que 3 jours. Un record, en quelque sorte. Le maréchal Bazaine, informé de la découverte, n'y accorde que peu d'importance. Décrète que pour l'instant, il n'en a pas besoin, mais il n'en autorise pas moins sa mise en service pour le transport des lettres de messieurs les officiers. Son entourage l'a persuadé que ce n'était là que jouets d'enfants, tout juste bon à faire intercepter par les Prussiens des dépêches pouvant les renseigner sur les intentions du commandement. Les pharmaciens n'en continuent pas moins à réaliser un nombre croissant de ballonnets, à se voir confier des lettres, et bien vite à limiter le poids de celles-ci à un décigramme, puis à accepter uniquement celles écrites sur de minuscules feuilles de papier pelure de la taille d'un papier à cigarette. Imaginez écrire une lettre sur un papier à cigarette. En fait, tu écris juste « Je suis en vie, bisous ».
On se revoit bientôt.
C'est ça. Ouais. Alors, ces petites lettres, simplement pliées en deux, sans enveloppe évidemment, pour éviter tout poids inutile. Ainsi venaient de naître les premiers aérogrammes, ceux dont l'histoire philatélique, alors philatélique c'est tout ce qui concerne les timbres, a retenu l'aventure sous le nom de papillon de Metz. Du 6 au 15 septembre, 14 de ces ballonnets chargés d'espoir prirent donc l'air lorsque le vent soufflait dans la direction favorable, c'est-à-dire vers l'ouest. Ils transportèrent au total 3000 dépêches. Sur chaque paquet de missives, une feuille de papier mentionnée, je cite, « La personne qui trouvera le présent paquet est instamment priée de mettre à la poste les lettres qu'il contient. » Et le signataire du rapport adressé ultérieurement au ministre de la guerre de conclure, « Le prix de chaque petit aérostat n'était que de 12 à 14 francs. Au total, je n'ai dépensé, frais d'expérience préliminaires compris, que 300 francs. Chaque fois qu'ils furent retrouvés, les plis ainsi expédiés furent acheminés par la poste sous enveloppe fermée. On s'en doute, ces papillons, d'une race peu ordinaire, sont rares. Tout comme du reste, les enveloppes que la poste utilisa pour les faire parvenir aux familles. On pense que 7 des 14 aérostats furent récupérés, dont un à Saint-Louis, près de Bâle en Suisse, et malheureusement un autre en Allemagne, la direction du vent ayant inopinément changé. Attention à la prononciation, à Neuf-Brisach, mais aussi près d'Épinal et à Saint-Dié, on a également signalé l'arrivée de ces messagers venus du ciel. Ainsi, quelques rares papillons des pharmaciens ont survécu jusqu'à nous et sont jalousement conservés dans les collections. Alors là, attention, paragraphe que je n'ai pas compris. Si on les appelle des pharmaciens, c'est parce qu'il faut les distinguer des frères qu'ils eurent dès le 16 septembre. Entre-temps, le haut commandement avait enfin repris l'idée des pharmaciens à son compte et réalisé des ballons de 3 mètres de diamètre, capables de transporter 800 grammes de courrier, soit de 5000 à 6000 lettres. Même principe, même matériaux, le papier calque imperméabilisé, même format de lettres, mais moyens accrus. Le gonflage se fera désormais à l'usine à gaz, tandis que la notice attachée au paquet de lettres prévoyait une récompense de 100 francs pour quiconque les porterait à la poste voisine. Comme ça, on est sûr que tout se passe bien. Le rythme des départs s'accélère. Presque chaque jour, un ballon prend l'air, emportant jusqu'à 25 000, voire 30 000 dépêches. Et cela jusqu'au 3 octobre, date d'envol du dernier des 14 ballons que l'on a recensés. Beaucoup furent récupérés en France non occupés, et le courrier qu'ils contenaient parvint dans des délais fort raisonnables aux destinataires en France et même à l'étranger. 3 ou 4 furent capturés par les Prussiens, et les plis qu'ils transportaient, conservés à titre de souvenir par les officiers, ont fait plus tard le bonheur de collectionneurs d'outre-Rhin. 2 d'entre eux emportaient, outre le courrier, des pigeons voyageurs destinés à rapporter des nouvelles de la France. À en croire les archives prussiennes, certains de ces malheureux volatiles finirent à la casserole et, humour d'un goût douteux, furent jugés fort tendres. D'autres relâchés retournèrent au bercail. Hélas, pour le moral de nos troupes, les Prussiens avaient pris la précaution de fixer à leurs pattes la désagréable nouvelle de la prise de Strasbourg par l'ennemi. En gros, ils relâchent les pigeons et bien, on a pris la ville. Bisous. Mais, fait plus grave et comble de malchance, l'un des ballons abattus à coups de fusil par les Prussiens contenait 2 lettres du général Coffinière adressées au gouvernement replié à Tours. Oups. Il critiquait vertement l'attitude de Bazaine, son supérieur hiérarchique. Double oups. Le prince Frédéric Charles de Prusse, ne laissant pas passer une si belle occasion d'attiser la zizanie qui opposait les 2 généraux français, et oui, ce serait bête de ne pas profiter de la réputation...
C'est stratégique.
Normal. Et utiliser les défauts des Français à son avantage, c'est
même,
très stratégique.
Même sans être allemand, j'aurais fait ça. C'est logique.
Il fit parvenir par l'un de ses émissaires les 2 lettres à Bazaine, après avoir pris la peine de souligner au crayon rouge les passages dignes d'intérêt. Entre les 2 types de papillons, ceux transmis par les ballons des pharmaciens et ceux acheminés par ceux du génie, les collectionneurs ne se sont pas trompés. Les premiers sont rarissimes, les autres sont intéressants, sans plus. Les uns et les autres n'en sont pas moins considérés parfois comme les premiers plis postaux transportés par voie aérienne. Et alors la question que tout le monde se pose, d'où vient leur nom de papillon? De leur légèreté? Sans doute, mais surtout d'un détail volontairement omis au début de ce récit. L'un des pharmaciens inventeurs se nommait le docteur Papillon.
C'est donc pour ça.
Exactement.
Tout s'explique finalement. Tout s'explique.
Et après cette belle histoire, eh ben on va pouvoir appeler Pascal. Et bonjour Pascal.
Bonjour Tiffaine. Comment allez-vous sur le bateau?
Ben, on est sans Vanessa ni Chloé, mais je ne suis pas seule parce qu'il y a de toute façon Léo et Maëva, qui est une jeune stagiaire qu'on a présentée un peu plus tôt et qui vient de l'ISJT.
Vous m'en direz tant.
Alors, niveau lecture, il me semble avoir compris que tu avais des petits thrillers policiers à nous conseiller.
Alors oui, je vous avertis tout de suite, c'est pas du feel good, hein, du tout, du tout. Donc je vais vous présenter ce soir le dernier roman de Hervé Lecor qui s'appelle « Qui après nous vivrait ?». Donc Hervé Lecor, c'est un auteur de romans noirs, plus que policiers, qui est édité chez Rivage et qui a fait de très très bons romans depuis pas mal d'années. Et il semblerait qu'avec celui-ci, il ait un peu plus de reconnaissance. Honnêtement, il l'a mérité. Et on l'a vu sur pas mal de plateaux de télé ces derniers temps. Peut-être que vous l'avez, que vous, les auditeurs, l'ont vu. Donc, c'est un roman qui nous amène en 2120 à peu près, après un siècle de crises diverses et variées. Donc, la crise climatique d'abord, qui a entraîné dans un effet domino des épidémies, des famines, des guerres, enfin voilà, que du réjouissant. L'Occident est retourné au niveau du Moyen-Âge à peu près, avec des groupes d'humains qui essaient de survivre au milieu de la barbarie. Dans ce monde-là, on fait la connaissance de quatre personnages, donc Yannour, Marceau, Clara et Léo. Alors c'est des compagnons d'infortune, c'est un père et son fils, une mère et sa fille. Et ils se sont réfugiés dans une des nombreuses maisons abandonnées et ils s'efforcent de survivre au jour le jour en attendant une attaque, parce qu'il y en a beaucoup. Et cette attaque, elle ne tardera pas à venir, évidemment. Ils s'en sortent miraculeusement et pas tous indemnes, pour certains vraiment pas. Et ils décident de poursuivre leurs assaillants pour se venger. Quand on passe au deuxième chapitre, on se retrouve au milieu du 21e siècle, dans les années 2060 à peu près. Et on suit Rebecca. Rebecca, c'est la grand-mère de Nour. Et elle est là avec Martin, son compagnon. Ils ont un petit bébé qui s'appelle Alice, qui a un an. Et ils assistent impuissants au grand effondrement. Du jour au lendemain, il y a une gigantesque coupure de tous les réseaux, électricité, eau, etc., dont on ne connaît absolument pas la cause, et ça plonge immédiatement ou quasi immédiatement la ville dans le chaos le plus total. Donc voilà, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, mais vous l'avez compris, il s'agit d'une dystopie.
Presque un roman d'anticipation un peu, non ?
Complètement. C'est ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire c'est de l'anticipation, mais très sombre.
Ok, c'est une branche d'anticipation.
Voilà. Et dans le titre, qui est un peu bizarre, « Qui après nous vivrait ça nous semble pas très français, tout ça. Je pense que le « vous » est sous-entendu, c'est-à-dire il s'adresse d'abord à cette lignée de femmes que sont Rebecca, sa fille Alice, sa petite-fille Nour et son arrière-petite-fille Clara. Mais il s'adresse aussi plus largement à tous ceux qui viendront après nous sur la planète qu'on leur aura laissée et qui est pas en très bon état. Donc il faut reconnaître que l'avenir tel que l'auteur nous le décrit n'est pas vraiment réjouissant.
C'est aussi comme ça que j'avais compris le titre de voilà. Qui après vous vivrait comme... Je le prends comme une question un peu.
Oui, c'est ça. Ça peut être pris comme ça aussi. Ça peut être carrément sombre, violent, désespérant, mais ce n'est pas un hasard s'il choisit de mettre en scène des héroïnes. Parce que par ce choix, il sous-entend que l'espoir de survie de l'humanité... ce sont les femmes et particulièrement les mères qui la portent, parce que honnêtement, quand tout déraille, et ça vous allez le voir en lisant le roman, les premières victimes en général ce sont les femmes, hein. On se trompe pas, donc le radicalisme religieux, elle charge, politique aussi, le manque de ressources, les guerres, mais ce sont aussi souvent elles les plus résilientes et les plus combatives. Parce que dans ces moments-là, les hommes y retrouvent très facilement leur instinct guerrier et leur instinct de domination. Donc ce roman, il sert un petit peu la cause des femmes, et les femmes sont là un peu pour effacer l'incurie des hommes. Et puis, ce qui est fabuleux dans ce roman, c'est sa construction. Voilà. Il a une construction qui nous accroche immédiatement, au point qu'on ne peut plus lâcher le livre, parce que on suit trois histoires simultanément. À chaque chapitre, on change d'héroïne et donc d'époque. Donc la première époque, c'est celle du grand effondrement, donc, qui est assez proche de la nôtre, parce que Rebecca, elle est née en 2020. Voilà, elle fait partie des petits bébés qui naissent ces derniers temps. Et les époques suivantes, elles balayent le siècle, jusqu'au siècle suivant, en fait, et on le sait très vite, rien ne s'est vraiment arrangé. c'est assez déstabilisant, c'est même angoissant parfois, et en même temps on se dit que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu. Il faudra bien d'autres générations et donc continuer à faire des enfants pour qu'un jour peut-être ils réparent les dégâts que leurs ancêtres, enfin pas très glorieux ancêtres on va dire, ont commis.
Oui, c'est plus un espoir quoi.
Voilà, il y a de l'espoir quand même. Il y a beaucoup de choses sombres forcément parce que effectivement, je sais pas si vous êtes fan de séries toutes. Je pense que vous avez vu la série.
Divergente. Oh là là, comment ça c'est une film ça.
Non, une série qui est passée dernièrement, qui est adaptée d'un jeu vidéo.
Arcane.
Last of Us.
Last of Us. Ok.
Voilà. Bon, on est un peu dans ça. Si vous avez vu la série, on est tout à fait dans cette ambiance-là.
Une dystopie épidémie zombie. Pour résumer très très grossièrement.
Ouais, enfin là il y a pas de zombies, hein, mais on est vraiment dans un monde où tout a été détruit.
Oui, c'est un monde où faut tout reconstruire et
où faut tout reconstruire. Ouais. Tout à fait. La moitié de l'humanité a été décimée par différentes choses et il y a des groupes comme ça qui veulent se dominer les uns les autres.
Hein. Ouais, c'est bien. Il y avait pas mal de dystopies pour en young adult à une période. Je pense à Hunger Games, Divergente, tous ces trucs. Donc ça me rappelle un peu ça.
Ouais, là c'est plutôt, on est plutôt dans la
carte. Ah bah là on est dans écarlate. La case, oui,
dans voilà, la servante écarlate un peu.
Ah bah entre s'adresser à de la jeunesse et ça, oui bien sûr, c'est un autre genre, une autre façon de raconter.
C'est un autre genre, mais on est dans cette
ambiance-là. Dans la continuité, ouais.
C'est très sombre, moi j'ai trouvé aussi que on peut voir dans ce roman un pamphlet en fait contre le système capitaliste qui est en train de tout détruire. Contre les hommes et en particulier les plus puissants, les acteurs de l'économie mondiale et les gouvernants qui regardent ailleurs pendant que tout est en train de s'effondrer quoi. Donc c'est un roman qui accroche immédiatement, qui est très très bien écrit parce qu'Hervé Lecor écrit vraiment très très bien, qui est aussi un peu politique. C'est ce qui est intéressant, assez écolo. Enfin on trouve un peu tout dans ce roman. Il est très très bien fait. Bon, évidemment, si on cherche un truc feel good, ben il faut pas se diriger là-dedans, hein, c'est sûr. Mais franchement, il vaut le coup. Ne le loupez pas. Ça s'appelle Qui après nous vivrait, et c'est d'Hervé Lecor et c'est édité chez Rivage. Voilà, c'était mon conseil lecture de ce soir.
Merci beaucoup, Pascal. Et je vais te garder avec moi parce qu'on va pouvoir conclure notre émission.
Oui, je suis toujours là.
On va pouvoir conclure du coup notre émission. Alors, bah, ça a été un plaisir de t'avoir. J'allais encore t'appeler Vanessa, Pascal et Maëva aussi.
C'est moi qui finis l'émission aujourd'hui.
Non, on conclut juste toutes les deux. Je te garde le temps de finir. Et on remercie bien sûr Maëva et on espère te revoir dans deux semaines pour une petite chronique.
Avec plaisir et merci de m'avoir accueilli.
Bah avec grand plaisir.
Ouais, il faudrait que Maëva me dise exactement à quoi correspond le sigle de sa merveilleuse école.
Oui, carrément. On te fera parvenir tout ça. Et merci à toi, Léo, pour la technique.
Avec plaisir.
Et je te souhaite un bon appétit.
Merci.
Entre parenthèses, vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur le site Espro Occitanie ainsi que sur l'application. On vous remercie à tous pour votre écoute. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et on se retrouve dans deux semaines.
À bientôt.
À bientôt.